Bon, elle est devant moi, Fatima Houda Pépin, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est la première fois, écoutez, je pense depuis l'automne 2013, depuis toute cette brouhaha autour du projet de charte, on voulait un jour avoir Fatima Houda Pépin en studio et ça n'a jamais fonctionné jusqu'à ce matin. Alors, je vous remercie d'être là.
Merci pour votre persévérance.
Oui, d'accord. Il faut saluer l'équipe aussi.
Ah, d'accord.
Et Fatima Houda Pépin, hier, on a parlé un peu, vous et moi, au téléphone et vous avez attiré mon attention sur le fait qu'à plusieurs moments pendant cet entretien, on risquait finalement de se référer à ce projet de loi sur lequel vous aviez travaillé de 2009 à 2011, que vous avez déposé en 2014. Et on vient de régler une chose, là, juste pendant que vous vous installiez, on va mettre un lien sur notre site. Parce que un projet de loi, on s'imagine toujours que c'est une brique épouvantable, que c'est dans un langage incompréhensible. Mais ce projet de loi, il fait 8 pages. Puis si un jour, vous voulez prendre le temps de vous asseoir puis de vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire contre l'intégrisme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet de loi sur la laïcité ou employons un autre terme, on va le faire tout à l'heure. Ben prenez le temps, allez sur notre site, on mettra un lien et vous allez trouver ces 8 pages. Puis il y a là une base de réflexion que je trouve absolument pertinente. Mais Fatima Houda Pépin, on n'a pas le choix. Un petit peu de précision sur certains termes.
D'accord.
Il y a beaucoup été question d'intégrisme au cours des dernières semaines. Et on en est venu à croire, en entendant certaines personnes, que l'intégrisme, c'était un choix personnel d'être très fervent, très pieux, très rigoureux dans la vision de sa foi. Et pour vous, je pense qu'il y a un piège si on fait cette lecture-là de la notion d'intégrisme.
Bien, alors, puisque vous référez au projet de loi 491 que j'avais déposé à l'Assemblée nationale le 12 février 2014, il s'intitule « Loi sur la neutralité religieuse de l'État et la lutte contre l'intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne et la loi sur le ministère du Conseil exécutif », parce que c'est un projet de loi qui modifie la charte, qui modifie la loi sur le ministère du Conseil exécutif et qui introduit une notion de droit nouveau concernant la neutralité religieuse de l'État. Et pour moi, tout ce débat qui sort à gauche, à droite, parfois à travers des concepts qui sont interprétés différemment, parfois à travers des actions qui sont condamnables et qu'on ne sait pas comment les condamner parce qu'on n'a pas de balises.
Oui.
Ça nous ramène à la nécessité d'avoir un cadre de référence clair, une définition claire de ce que c'est que la neutralité religieuse de l'État. Je précise que moi, je ne suis pas dans la charte des valeurs du Parti québécois. Ce projet de loi, je l'ai élaboré entre 2009 et 2011, alors que j'étais promis vice-présidente de l'Assemblée nationale dans le sillage de la commission Bouchard-Taylor. La charte du Parti québécois a été déposée plus tard, en 2013, et tout de suite, moi, je me suis prononcée contre la charte. D'abord parce que on n'a pas besoin d'une autre charte. Si on a des droits à affirmer, il faut le faire dans la charte des droits, pour que tout le monde comprenne exactement ce qu'on veut.
Donc, en l'occurrence, ajouter un article préciser quelque chose.
Voilà, c'est ce que j'ai fait dans ce projet de loi. La deuxième chose, c'est que les valeurs, on ne peut pas les codifier, pour la bonne raison que les valeurs sont changeantes. Comme l'identité, ça évolue. Alors, pour moi, les droits, c'est une chose, les libertés, c'est une chose, les valeurs, on peut en discuter, parce que c'est sociologique. Alors donc, je me suis attelée à cette tâche-là et j'ai introduit une définition de ce que c'est que la neutralité religieuse de l'État que je spécifie parce que moi, j'adhère pas nécessairement au concept de la neutralité.
De la laïcité,
qui est plus restrictif parce qu'il s'applique à la religion catholique. Historiquement parlant, si ce débat avait lieu dans les années 60 ou avant, on aurait parlé de la laïcité et ça serait correct parce que il y avait une religion dominante. Aujourd'hui, on est face à une diversité de religions et l'État doit être neutre face à toutes les religions.
Donc, historiquement, la laïcité, c'est de ne pas être catholique ou de ne pas utiliser le...
Non, mais c'est parce que la laïcité, c'est un concept qui est propre au catholicisme. Même chez les protestants, le sacerdoce est universel. On n'a pas besoin d'avoir une hiérarchie, un clergé qui va jusqu'au Vatican, jusqu'au pape. Et cette structure-là n'existe pas dans les autres religions, y compris dans l'islam, qui est une religion sans intermédiaire, sans sacerdoce. Donc, la neutralité religieuse est définie dans le projet de loi que j'avais déposé comme étant, si vous permettez, l'État est neutre au regard de quelque religion que ce soit, Il ne peut directement ou indirectement favoriser ou défavoriser l'exercice d'une religion. Et j'ajoute quelque chose qui est aussi du droit nouveau. La neutralité religieuse, c'est pas juste un droit collectif, c'est aussi un droit individuel. J'ajoute, toute personne a droit à la neutralité de l'État envers les religions. Autrement dit, un simple citoyen peut poursuivre l'État pour non-respect de la neutralité religieuse.
Donc, c'est beaucoup plus large et efficace,
plus
je
inclusif,
dirais. Plus inclusif
comme notion. Ça comprend toutes les réalités qui peuvent devant nous.
Mais j'aimerais qu'on parle, c'était important de mettre ça sur la table, Madame Ouda Pépin, mais cette question de l'intégrisme, parce qu'elle est au cœur de ce que vous aviez proposé, et peut-être sans se référer nécessairement au texte, parce que bon, on mettra un lien pour que les gens le trouvent, mais simplement en conversation, là.
Oui.
L'intégrisme.
Alors, justement, quand j'ai abordé cette question, c'est le seul projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale qui portait sur les deux volets, la neutralité religieuse de l'État et la lutte à l'intégrisme. Et évidemment, lorsqu'on arrive face à des concepts comme ça, on peut aller dans toutes les directions. Alors, j'ai planché avec l'aide de juristes, de spécialistes, sur une définition de ce que c'est que l'intégrisme religieux. Et c'est très important, cette notion-là, parce que, encore une fois, elle englobe tous les cas de figure. Alors, l'intégrisme religieux, c'est une idéologie politique.
Mais c'est là que je suis étonnée. Pourquoi je ne sais pas si vous le décidez, mais quelle est la référence pour vous qui fait que l'intégrisme religieux, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est automatiquement une idéologie politique?
Parce que le phénomène auquel on devrait s'attaquer, c'est le phénomène qui met à mal la démocratie, qui veut imposer un système de droit, un système de valeurs, et qui met en question même les principes que nous avons inscrits dans la charte. Donc, l'intégrisme religieux, si on veut rester dans le registre religieux en tant que tel, les gens peuvent pratiquer leur religion comme ils veulent. C'est leur liberté. Lorsque quelqu'un veut modifier le comportement des gens, de la société, de l'État, de ses institutions, il veut imposer son propre schéma de référence, là, on n'est plus dans le registre purement religieux.
Mais par contre, on pourrait vous dire, mais attention, il y a des catholiques intégristes qui ne veulent pas mettre à mal les institutions démocratiques, qui se contentent d'être extrêmement rigoureux, intégristes dans leur pratique de la foi, dans leur famille, mais qui ne remettent pas en question la démocratie. Est-ce que là, on tombe pas dans une particularité du monde musulman?
Ben, écoutez, si j'avais vécu du temps d'Isabelle la catholique, qui a imposé l'Inquisition et qui forçait les musulmans et les juifs à se convertir ou à mourir, j'aurais été contre l'intégrisme d'Isabelle la catholique.
Oui, mais on n'est plus dans ce temps-là.
Justement. Alors aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène qui se déploie au sein de l'islam. Oui. C'est ça la réalité. Il faut regarder la réalité en face. Moi, je suis musulmane et fière de l'être. Je ne voudrais pas que mon islam soit pris en otage par des islamistes radicaux qui imposent leur système de valeurs quand on est rendu à décapiter, à tuer, à endoctriner au nom de l'islam. Je dis non. Ma religion, c'est pas ça.
Mais
j'ai le droit de le défendre.
Et on est tous complètement d'accord avec vous. Et travaillent beaucoup tous en ce moment à éviter ce raccourci, on entend parler partout d'amalgame en ce moment. Mais Fatima Ouda Pépin, en France, vous connaissez, je pense, le travail de Dounia Bouzard, qui est cette anthropologue qui surveille beaucoup les questions d'intégrisme, qui s'en est fait une spécialité. Elle a choisi de parler de dérive sectaire, parce qu'elle dit ce n'est même plus de l'intégrisme religieux. C'est de la folie, c'est de la dérive sectaire.
C'est sûr que lorsqu'on arrive à l'étape du terrorisme, du djihad.
Ou de couper des mains.
C'est justement. Alors, allons-y pour le couper des mains. Pourquoi est-ce que les gens réclament, disent ici qu'il faut couper les mains? Parce que depuis des années, Madame Perrin, il y a des groupes qui sont présents au Québec, qui étaient à l'origine minoritaires, mais qui exercent beaucoup d'influence aujourd'hui, qui propageaient cet islam wahhabiste, salafiste, qui est un islam politique. On n'est plus dans le registre de la foi, parce que dans l'islam, je vous disais que il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire que le croyant et la croyante est dans un rapport direct avec Dieu. Il n'y a personne qui va venir lui dire « tu dois haïr les mécréants ». Tu dois faire le djihad. Tu dois faire l'asservissement sexuel parce que c'est ta religion. Non, ça, on est dans un registre politique. Les gens ont un projet, ils veulent modifier la société, mm-hmm. ils veulent imposer leur système. Quand on est rendu à réclamer l'implantation de la charia au Québec, au ouais. Canada, quand on est rendu à avoir des conseils de la charia au Québec et au Canada, c'est quoi ça? Et on va laisser faire?
Et pour vous, à ce moment-là, ça serait, on pourrait pas parler de dérive sectaire, on doit parler d'intégrisme religieux, d'idéologie politique.
Parce que moi, je veux qu'on s'attaque pas seulement au volet sécuritaire. Le volet sécuritaire, il est nécessaire. Mm-hmm. Mais il a énormément de limites. Si on veut vraiment éradiquer ce phénomène-là, de l'islamisme radical, il faut remonter à la source, à la base. Et la base, c'est quoi? C'est l'endoctrinement. Récemment, on s'est ému d'un imam, Hamza Chaoui, pour ne pas le nommer, qui disait que, lui, son islam, c'est de couper la main, c'est de lutter contre la démocratie, c'est de faire ci, de faire ça. Savez-vous, Madame Perrin, que ça fait plus de 25 ans que des imams au Québec prêchent cet islam-là? Et qu'aujourd'hui, ça ouais. porte fruit. Permettez-moi, en février 1992, ça fait 23 ans exactement, la presse avait publié une série d'articles sur l'islam et les musulmans, où elle citait au moins deux imams. À l'époque, il y avait une dizaine de mosquées dans la région de Montréal. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine. Et déjà là, des imams reconnaissaient qu'ils étaient payés par la Ligue islamique mondiale. Ça veut dire formés dans l'islam wahhabis, salafiste. Ils sont là pour propager cet islam-là auprès des communautés. Et à l'époque déjà, il y a 23 ans, officiellement et dans le journal La Presse, ils disaient que leur loi, qui est supérieure à la loi des hommes, c'est-à-dire des parlements et de la démocratie, elle commandait qu'on coupe les mains et elle commandait qu'on lapide les femmes. C'était dit publiquement.
Et 23 ans,
moi, pour avoir suivi ça auparavant, je sais que ça se disait bien avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement ces gens-là osent dire publiquement ce qu'ils pensent, mais il l'enseigne aussi via l'endoctrinement aux hommes, aux femmes, aux jeunes. Alors aujourd'hui, on est rendu dans une étape du jihad 2.0 et on pense que c'est l'internet qui islamise les gens et qui les endoctrine, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder le discours qui est derrière cette technologie-là?
Qui est derrière depuis longtemps.
Bien entendu.
Fatima Ouda Pépin, ce qui nous amène à ce qui est pour vous l'autre volet extrêmement important de tout ce qu'il faut entreprendre. Et là-dessus, bon, il y a le Parti québécois qui a déposé ou qui réfléchit en ce moment à l'idée d'un observatoire sur l'intégrisme religieux. Vous aviez parlé dans votre projet de loi plutôt d'un centre de recherche-action. Et les deux mots sont importants. Vous vouliez pas simplement observer la chose, mais recherche-action. Alors, on fait quoi? On va faire une fiction ensemble. Mettons qu'il y a 20 ans, au moment où, mettons que ce centre de recherche-action aurait déjà existé. S'il avait déjà existé il y a 20 ans ou 22 ans, là, au début des années 90, et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tranquillement commencé à observer ce qui se passe dans ces mosquées, et il aurait fait quoi? Il aurait travaillé à de la prévention?
Entre autres, le centre de recherche action tel que défini dans le projet de loi, parce qu'on est face à un texte juridique qui est devant nous, pour avoir observé ces phénomènes, pour les avoir évolués, dans différents lieux, auprès de différents publics. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, tenons compte du déficit de connaissances qu'on a à l'égard de l'islam et des musulmans. Et ça inclut même les médias. Le fait qu'aujourd'hui, on soit encore à réfléchir et à discuter de ce que c'est que l'intégrisme. On est aujourd'hui, en 2015, en train de se demander c'est quoi l'intégrisme. Alors, ce centre de recherche action, il documenterait les phénomènes des intégrismes qui se manifestent dans notre société, dans les différents milieux, et il ferait un rapport. Ce rapport-là serait déposé par le Premier ministre lui-même, parce que le centre de recherche action relèverait de lui.
Premier ministre.
Et il
déposé
ferait rapport
à l'Assemblée nationale
pour donner le pouvoir aux parlementaires qui sont les élus du peuple, qui sont imputables, d'en discuter et d'adopter les mesures appropriées, que ce soit des mesures législatives ou des mesures administratives ou des mesures réglementaires. Je reviens au cas de Hamza Chaoui.
Oui.
Le gouvernement a envoyé la patate chaude au plus bas niveau de l'autorité.
L'arrondissement.
Oui. Pour dire, débrouillez-vous avec ça. Mais le maire, Monsieur Ménard, que je respecte, que j'estime qu'il a fait ce qu'il a pu dans les circonstances, lui n'a pas de cadre de référence pour agir. Oui. Alors, une loi sur la neutralité, si on l'avait, elle lui donnerait un cadre de référence. Elle permettrait à tous les niveaux, ceux qui sont interpellés à l'intérieur de leurs compétences et leurs responsabilités, d'agir et d'agir adéquatement.
Mais c'est intéressant qu'on ait ce cas-là, justement.
Voilà.
Alors, prenons le cas de Hamza Chaoui. Le centre de recherche action saisit qu'il y a ce problème, il y a cette situation. On en réfère au gouvernement. L'Assemblée nationale fait quoi, Madame Oudapépin, dans la mesure où ça a été établi, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça depuis 2 semaines et qui disent, attention, il n'y a rien d'illégal. Cet homme-là a le droit de, au nom de la liberté d'expression, tant qu'il n'appelle pas à la haine, tant qu'il n'appelle pas à la violence, tant qu'il fait des références comme ça au fait que ça peut être exemplaire, mais qu'on ne le fait pas ici, mais que ça peut être exemplaire à un moment donné, qu'un voleur va peut-être plus s'empêcher de voler s'il a vu quelqu'un se faire couper la main. C'est très insidieux.
Bien, écoutez, ça participe justement de la méconnaissance de ces phénomènes-là. Moi, je suis pour la liberté d'expression et je me battrai pour la défendre. Mais je me battrai contre la propagande haineuse sous couvert de religion.
Quand est-ce que ça commence?
Sous couvert de religion, si vous permettez. Parce que quand on est rendu à dire aux gens qu'il faut haïr les mécréants, quand on est rendu à enseigner ça aux jeunes et dans certaines écoles aux enfants, c'est le temps d'agir. C'est ce que je vous dis. Il faut aller à la base, voir qu'est-ce qui s'enseigne, comment est-ce que cela affecte le mieux vivre ensemble, l'harmonie sociale, comment cela affecte aussi la dynamique de l'intégration de certaines communautés qui sont isolées par ces groupes-là, qui veulent leur imposer, c'est dans le quotidien, leur imposer ce système de valeurs, cette charia, etc. Je dis, il faudrait regarder ce qui se passe sur le terrain pour que ceux qui sont vraiment dans la liberté d'expression, pour qu'on peut dire, on les respecte, et ceux qui sont dans un autre registre de l'islam politique et de l'endoctrinement, on puisse les dénoncer et on puisse aussi avoir les moyens d'agir contre eux.
Donc, pour ça, ça prend presque des infiltrations de milieu.
Écoutez, moi, je ne parle pas d'infiltration. Je parle de centre de recherche action, qui est ouvert, avec des gens qui vont aller sur le terrain, comme on va sur le terrain pour colliger des informations dans toutes sortes de domaines, et qui va éclairer et qui va permettre aussi de distinguer ce phénomène-là de l'ensemble des communautés musulmanes qui actuellement portent le fardeau de la preuve, pour tout le poids de cette stigmatisation de l'islam et des musulmans comme si tout le monde était intégriste. Non, faisons la part des choses. Ceux qui sont dans ce business, si je peux m'exprimer, il faut à ce moment-là les mettre au pas. Dans le projet de loi, justement, au chapitre du Centre de Recherche Action, il y a des choses qui sont dites là-dedans. Par exemple, si on découvre qu'il y a un endroit où on fait de la propagande haineuse, où on appelle les gens au djihad, et ça existe. Aujourd'hui, là, ça existe. Avant, on distribuait des cassettes vidéo. Aujourd'hui, on va sur Internet. D'accord? Alors, le gouvernement, via l'Assemblée nationale, il y aurait une adoption de sanctions appropriées telles que la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance au terme de la loi sur les impôts.
Oui, ça c'est une bonne idée.
Mais avant de dire de s'attaquer à tel ou tel organisme, faisons la preuve. De quoi est-ce qu'on parle vraiment? Et distinguons ce qui est l'islam et qui peut être diffusé par différents moyens et ce qui est de l'islamisme radical et qu'il faut empêcher, en tout cas, de se propager.
Mais pour ça, comme vous le dites, il faut être bien outillé pour bien faire la distinction entre les deux.
Et le centre de recherche action de lutte contre les intégrismes ferait ça. On n'aurait pas des académiciens, c'est pas un centre académique, c'est vraiment un centre de recherche action.
Alors, ce qu'on peut vraiment souhaiter, c'est qu'il y ait de ces idées-là, parce qu'on attend de voir ce que le Parti québécois va proposer, mais surtout qu'il y ait une action non partisane.
Oui,
partisane peut-être.
Ben voilà, absolument.
La loi 60.
C'est mon plus grand souhait d'ailleurs que les parlementaires arrêtent chacun de revenir avec la charte. C'est un débat qui est épuisé, caduque. OK, ça a fait assez de dommages au Québec. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est une bonne définition de la neutralité religieuse de l'État, inscrite dans la Charte québécoise des droits et libertés. Et les juristes et les tenants de l'approche juridique exclusive qui disent non, il faut pas faire ça parce que c'est déjà implicite dans la Charte. Si c'est déjà implicite dans la Charte, pourquoi ne pas la rendre explicite pour que ça soit clair pour tout le monde? Deuxième élément, ceux qui disent « Ah ben, une loi sur la neutralité religieuse de l'État n'empêchera pas le terrorisme de se manifester. » C'est un argument fallacieux parce qu'il n'existe pas de loi, véritablement de loi,
par définition.
Qui va régler tous les problèmes qu'elle est censée régir. C'est pour ça que les parlementaires passent leur temps à adopter des projets de loi pour modifier des lois existantes. Voilà.